Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports. On fera un point sur la dernière étape du Tour de France. Puis vous avez rendez-vous avec la rétrospective du jour. Léo Roussel nous parlera du Soudan. Puis Europa Voice avec Nathalie Bloch et enfin Eliane Lossad, pianiste d'exception au micro d'SBS. Mais tout de suite, c'est votre journal. Les titres de ce samedi 8 juillet, au lendemain de la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, les hommages se multiplient. L'ex-chef de l'exécutif avait su marquer son temps par sa longévité, mais aussi par les réformes économiques. Au Royaume-Uni, les tractations politiques ne font que commencer après la démission de Boris Johnson. Et le président américain Joe Biden a signé un décret présidentiel pour tenter de protéger l'accès à l'avortement. Les hommages se multiplient au Japon mais aussi à l'étranger depuis l'annonce de la mort de l'ancien Premier ministre japonais. Shinzo Abe a été tué par balle vendredi matin lors d'un rassemblement électoral dans l'ouest du Japon. Il avait quitté le pouvoir il y a 2 ans, détenant un record de longévité à la tête du gouvernement. Shinzo Abe s'est surtout distingué par sa politique économique volontariste, un plan de relance ambitieux, quelque peu contrasté. Patricia Lecomte pour RFI.
En 2012, quand Shinzo Abe prend ses fonctions, le Japon est depuis 20 ans englué dans une quasi-déflation. Le nouveau Premier ministre veut relancer l'économie et met en place une politique novatrice appelée Abenomics, qui est la contraction du nom du Premier ministre Abe et de Nomics pour économie. Le programme s'appuie sur 3 flèches. La première vise une politique budgétaire généreuse, 175 milliards d'euros sont injectés dans l'économie. La deuxième flèche vise une politique monétaire extrêmement souple. En augmentant la masse monétaire, le coût du crédit baisse, ce qui relance l'activité des entreprises et la consommation des ménages, avec pour effet de faire baisser le yen et donc de rendre les entreprises nippones plus compétitives. La troisième flèche repose sur des réformes structurelles comme favoriser la natalité ou encore ouvrir le marché du travail aux femmes. L'édifice imaginé par Shinzo Abe ne peut fonctionner que si toutes les flèches sont lancées. Si les 2 premières ont bien été activées, la troisième n'a pas marché en raison notamment de la puissance de certains lobbies. Sans réformes structurelles de grande ampleur, le bilan de la politique de relance économique de Shinzo Abe s'avère très contrasté.
La police enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre et a déclaré que le suspect en voulait une organisation spécifique, sans citer cette organisation. La police a déclaré que le suspect pensait que M. Abe faisait partie de ce groupe anonyme. Il travaille toujours pour déterminer si l'homme âgé de 41 ans a agi seul. Le secrétaire adjoint du cabinet japonais pour les affaires publiques a déclaré que M. Abe avait souhaité continuer à servir sa nation.
At 67 years old, he was still very much determined to serve the country he loved, he dearly loved. And Mr. Abe, as you know, served for 2 terms as prime minister between 2006 and 2007, and the second time 2012 and 2020. So he's always remembered dearly by the Japanese people as the longest serving prime minister of Japanese history, and he is such a kind person.
La ministre des Affaires étrangères, Penny Yong, a déclaré avoir eu des discussions franches avec son homologue chinois lors du sommet du G20 à Bali. Selon Penny Yong, l'écoute a été mutuelle, notamment sur les priorités et les préoccupations de chacun.
As you would expect, I raised a number of issues in relation to bilateral, regional and consular issues. Australia and China have gained much through the strength of our economic and people-to-people ties. We do have our differences. We do have our differences. But as I said this morning, And as I have previously said, we believe it is in the interests of both countries for the relationship to be stabilised.
Les manœuvres politiques ont d'ores et déjà commencé au Royaume-Uni pour remplacer Boris Johnson. L'ancien ministre des Finances Rishi Sunak a été l'un des tout premiers à se positionner pour succéder à Bojo, comme on le surnomme autre manche. Boris Johnson, qui avait démissionné après la défection en cascade d'une soixantaine de membres de son gouvernement, mettant fin à 3 années au pouvoir marquées souvent par des scandales. Le tumultueux Premier ministre a même été parfois comparé à l'ex-président américain Donald Trump, ce que ne partage pas Alma Pierre-Bonnet, de Civilisation britannique à Sciences Po Lyon. Alma Pierre-Bonnet pour RFI.
Les deux ont quand même joué sur les notions de guerre culturelle, les notions d'opposition fondamentale entre ce que veut dire être britannique ou être américain. Mais cette opposition fondamentale, viscérale, est beaucoup plus forte aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, l'approche est tout de même plus pragmatique, alors qu'elle est peut-être plus idéologique et plus enracinée aux États-Unis. Les conséquences du mandat de Donald Trump vont se faire sentir encore pendant de très longues années, notamment à travers l'élection de certains juges à la Cour suprême qui vont influencer la politique américaine pendant des années. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, c'est tout de même différent. Un Parlement peut totalement changer les décisions prises juste avant. Un Premier ministre ou une Première ministre peut-être moins extrême que Boris Johnson pourrait totalement changer la direction politique du pays. Donc je ne suis pas sûr que Johnson va laisser une trace aussi forte que ça dans le pays. Un peu comme son idole Winston Churchill, il a bénéficié vraiment de circonstances exceptionnelles. Et pour que lui arrive au pouvoir, voilà, il a fallu cette crise du Brexit. Mais sans ça, il y a très peu de chances qu'il arrive au pouvoir.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite à des militaires blessés dans un hôpital de la ville orientale de Dnipro. Il leur a remis des médailles et a remercié le personnel médical.
We are applauding you. The result of your work, which we observe, creates a feeling of pride. We are proud that we have such great people. You are at the front line, just like the armed forces.
Le président Zelensky a également rendu visite aux troupes le long de la ligne de front de Dnipropetrovsk. La visite est intervenue un jour après que 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées à la suite d'un bombardement des forces russes sur la zone de Kharkiv. Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes ont continué à maintenir la pression sur les troupes ukrainiennes qui tentaient de maintenir la ligne de long des frontières nord de la région de Donetsk. Après avoir effectivement renforcé son contrôle total sur la région voisine de Luhansk, Moscou a clairement indiqué qu'il prévoyait de capturer les parties de Donetsk. Cependant, Kiev contrôle encore certaines grandes villes. Le président américain Joe Biden a signé un décret présidentiel pour tenter de protéger l'accès à l'avortement. Le texte signé vendredi prévoit aussi de protéger les cliniques mobiles pratiquant l'IVG aux frontières extérieures des États l'ayant interdite. La Maison-Blanche veut aussi garantir l'accès à la contraception, en particulier à la pilule du lendemain et au stérilet. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la seule façon de traiter correctement la question était de se rendre aux urnes lors des élections de mi-mandat qui auront lieu mi-novembre.
The way to really address this is for people to make sure that their voices are heard at the ballot box. That is what he is calling for. That is what we are asking our fellow Americans to make sure that they speak up and get their voices heard.
Tout de suite, la météo de ce samedi. À Perth, pluie au programme et aujourd'hui seulement 21 degrés. Adélaïde, ciel partiellement couvert, 15 degrés prévus. Melbourne, pluie fine durant la journée et seulement 13 petits degrés. Hobart, alternance de nuages et d'éclaircies, 13 degrés. Au thermomètre, conditions similaires à Canberra. Sydney, des averses sont prévues et seulement 17 degrés. Brisbane, journée ensoleillée, 20 degrés. Cairns, ciel partiellement couvert et 26 degrés. Darwin, placé sous le soleil et 29 degrés. Les titres de ce samedi 9 juillet, le lendemain de la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, les hommages se multiplient. L'ex-chef de l'exécutif a su marquer son temps par sa longévité, mais aussi par les réformes économiques. Au Royaume-Uni, les tractations politiques ne font que commencer après la décision de Boris Johnson. Et le président américain Joe Biden a signé un décret présidentiel pour tenter de protéger l'accès à l'avortement. Excellent après-midi avec SBS et votre programme en français.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tout de suite, le journal des sports et on commence par le Tour de France. Déjà vêtu du maillot jaune, Tadej Pogačar a remporté hier la 7e étape à la super planche des belles filles. Il conforte encore plus sa place de leader sur le Tour. C'est désormais devenu un classique de la grande boucle. La montée vosgienne, proposée cette année en configuration super planche, a souri au Slovène Tadej Pogačar qui s'est imposé une fois de plus. Pogačar a gagné sa 2e étape consécutive dans ce Tour de France. Il a devancé, cette fois de peu, le Danois Jonas Vingegaard dans la première arrivée au sommet de la course. Avant d'aborder cette montée chère au Français Thibaut Pinot, dont le village de Mélisée est niché à moins de 20 km, deux cols de 3e catégorie, col de Grosse-Pierre, col des Croix, étaient à gravir. Thibaut Pinot a été lâché en fin d'étape dans la première difficulté. Le classement général du Tour après la 7e étape. En première position, on trouve donc Tadej Pogačar. En seconde position, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Adam Yates et David Gudu. Tout de suite, on fait un point sur le tennis, notamment Wimbledon. Yoann Siaber est la première africaine à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. La Tunisienne Yoann Siaber, 2e mondiale, s'est qualifiée jeudi 7 juillet pour la finale de Wimbledon en battant l'Allemande Tatjana Maria, classée 103e, 6-2, 3-6, 6-1, devenant la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère de l'Open. À 27 ans, Yaber tentera samedi de remporter son premier majeur face à la Kazakh Elena Rybakina, classée 23e, qui a battu la Roumaine Simona Halep, 18e, 6-3, 6-3. Le Rugby Africa Cup qui se déroule en ce moment, le Kenya et la Namibie en finale des qualifications Afrique, en s'imposant respectivement face à l'Algérie et au Zimbabwe en demi-finale de la Rugby Africa Cup. Le Kenya et la Namibie se retrouvent en finale pour se disputer le ticket qualificatif au Mondial 2023. La Namibie, grande favorite du tournoi, et le Kenya se sont qualifiés mercredi pour la finale des qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2023 de rugby, dont le vainqueur intégrera la poule A lors de la Coupe du Monde en France. Au cours de la première demi-finale disputée à Marseille, le Kenya s'est difficilement imposé 36-33 contre l'Algérie, sélection jeune qui n'a intégré le classement mondial que l'an dernier. Dans l'autre demi-finale, la Namibie n'a pas eu beaucoup de mal à s'imposer devant le Zimbabwe, 34-19. Dimanche 10 juillet, à Aix-en-Provence, les Namibiens partiront favoris, fort de leur participation aux 6 dernières éditions de la Coupe du Monde. Le vainqueur du tournoi sera versé dans la poule A du Mondial 2023, qui se déroulera du 8 septembre au 21 octobre, en compagnie de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays d'hôte, et de l'Italie et de l'Uruguay. Merci d'avoir suivi votre journal des sports. Nous sommes le 9 juillet et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 2011 sur le continent africain. Le 9 juillet était déclaré l'indépendance et la création du Soudan qui devenait alors le 193e État au monde. 11 ans plus tard, retour sur une journée historique pour le pays avec Léo Roussel et des archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel, de France Télévisions et de France 24.
Jusqu'à présent, ils n'avaient connu que la guerre, les destructions et les famines. Alors, ils n'ont pas attendu la proclamation officielle pour fêter l'indépendance. Scène de liesse populaire spontanée dès hier soir dans les rues de Juba, la nouvelle capitale du Sud-Soudan. Un peuple martyr veut croire en son avenir.
C'était en 2011, il y a 11 ans déjà, le Sud-Soudan, dernier état en date à voir le jour dans le monde, fêtait son indépendance. Un tout nouveau pays reconnu la veille, le 8 juillet, déjà par l'Allemagne et par le Soudan. Cette journée historique survient à la fin d'un long processus engagé en faveur de l'indépendance du pays, conclu par un référendum d'autodétermination quelques mois plus tôt. Vous l'avez entendu dans cet extrait de reportage du journal de 20h de France 2 du 9 juillet 2011. La nouvelle capitale est Djouba. Le pays s'étend sur 644 329 km². C'est plus que la superficie de la France. Alors pour comprendre l'indépendance du Soudan du Sud, il est nécessaire de revenir en 1956 sur une autre indépendance, celle du pays juste au-dessus quand on regarde une carte du continent africain, le Soudan. Avant 1956, le pays ne s'appelle pas ainsi puisqu'il est administré sous la forme d'un condominium par l'Égypte et le Royaume-Uni, c'est-à-dire que les deux pays se partagent la gestion d'un autre État qui se nomme alors le Soudan anglo-égyptien. En 1954, l'Égypte et le Royaume-Uni signent un traité qui garantit l'indépendance du Soudan. Celle-ci démarre officiellement le 1er janvier 1956. Seulement voilà, le pays est divisé. Le nord du pays est majoritairement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne et demande déjà davantage d'autonomie. Et lorsque l'administration britannique s'en va, c'est une dictature militaire qui arrive au pouvoir. Commence alors dès 1956 une première guerre civile. Alors il ne s'agit pas d'un conflit religieux uniquement, il y a d'énormes différences culturelles entre le nord et le sud du pays. Le sud qui a lui également un développement économique plus faible, plombé par les politiques coloniales britanniques. La première guerre civile prend fin en 1973, mais une seconde reprend en 1983, presque pour les mêmes raisons, mais aussi sur fond de pétrole. Des ressources pétrolières ont en effet été découvertes au sud du pays entre-temps. Le nord veut tirer profit de ces ressources et le sud veut les conserver. Cette guerre civile durera jusqu'en 2005 et elle aura des conséquences terribles. Déplacement de plus de 4 millions de personnes ou encore des famines, comme l'explique cet extrait de reportage diffusé sur Antenne 2 en novembre 1988.
C'est la joie à Abyei. Le ciel a envoyé cet avion qui a pour nom CICR, tête d'un pont aérien financé par la Croix-Rouge et le Croissant Rouge soudanais. Il était temps. Mais pour certains d'entre eux, il est trop tard. La malnutrition, trop avancée, le mal irréversible. Cela fait 6 mois que l'avion aurait dû arriver.
Ce conflit sera marqué par une autre large famine en 1998 et il va durer jusqu'en 2002. Un cessez-le-feu sera proclamé, confirmé 3 ans plus tard, en 2005, par un accord de paix. Cet accord, il donne au Soudan du Sud une large autonomie pendant une période de 6 ans, au bout de laquelle ses habitants doivent être soumis à un référendum d'autodétermination. Ça nous amène donc en 2011. Le référendum survient du 9 au 15 janvier et près de 4 millions de Soudanais du Sud votent, à 98,83% en faveur de leur indépendance. Celle-ci prend date le 9 juillet et ravive les espoirs de paix au Soudan, mais ce sera loin d'être la réalité.
Cette lutte de pouvoir entre le vice-président et le président Salva Kiir a entraîné une guerre civile qui dura 6 ans, officiellement terminée par les accords de paix de 2018. Mais en dehors de Djouba, l'insécurité perdure. C'est dans la région administrative du Pibor, dans l'est du pays, que la situation est la plus dramatique. Du fait des violences et d'absence de récolte, les habitants risquent la famine. La nourriture est transportée par hélicoptère ou parfois larguée par avion.
Vous l'avez compris dans cet extrait de reportage diffusé en 2021 sur France 24 pour les 10 ans de l'indépendance du Sud-Soudan. La situation reste difficile dans le pays. En 2013 a éclaté une nouvelle guerre civile au Sud-Soudan jusqu'en 2018, causant la mort de centaines de milliers de personnes et forçant le déplacement de près de 4 millions de Sud-Soudanais. Toujours marqué par des violences intercommunautaires, le pays dispose de l'une des situations sanitaires les plus préoccupantes au monde. Le taux de mortalité maternelle y est très élevé et l'ONG Médecins Sans Frontières rapporte que le Sud-Soudan fait régulièrement face à des épidémies de rougeole ou de choléra, la malnutrition menaçant aussi en continu le pays.
C'est Europa Voice et aujourd'hui un épisode particulier hein, puisqu'on célèbre le 100e numéro de ce podcast et bien sûr celui qui est là depuis l'épisode 1, Nathanaël Bloch, messieurs, dames.
Bonjour Marianne.
Avant de commencer, Nathanaël, une petite pensée pour Christophe, hein, Christophe Mallet, puisque c'est avec lui que vous avez créé ce podcast.
Oui, effectivement, hein, le 100e de cette série de podcasts, on a commencé ça avec Christophe il y a 3-4 ans de cela. Maintenant, on ne savait pas... après le numéro 1 qu'on allait aller jusqu'au numéro 100, mais toujours autant de plaisir de retrouver les auditeurs d'SPS après 100 podcasts. On est passé par plein de sujets, par le Brexit, par des élections un peu à travers toute l'Europe, puis on va le voir aujourd'hui hein, aussi par les relations franco-australiennes qu'on a traitées nombreuses fois. Donc non, toujours un grand plaisir de retrouver les auditeurs et effectivement une pensée pour Christophe à l'initiative aussi de ce projet.
Et c'est pas fini, hein, c'est le numéro 100, mais il y en aura plein d'autres encore. La fin de la présidence tournante de l'Union européenne pour la France, une présidence largement marquée par la guerre en Ukraine, hein, puisqu'elle a éclaté le 24 février dernier, on s'en souvient. Il y a des dossiers toujours en cours, des dossiers qui, eux, ont été bouclés. Nathanaël, quel bilan tirer de cette présidence française d'Emmanuel Macron ?
Alors effectivement, Marianne, c'est la fin de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour la France. Et je crois que il y a deux premiers enseignements, enfin il y a deux choses qu'on peut dire sur cette fin de présidence. C'est d'abord que effectivement un peu d'une certaine façon comme le Covid au début du mandat d'Emmanuel Macron, la guerre en Ukraine a profondément modifié, en tout cas a accéléré beaucoup de dossiers pendant cette présidence française. Ça c'est le premier point. Hein. Et puis le deuxième point, c'est que d'une manière globale, et ça a été aussi souligné par les leaders européens, par la présidente de la Commission, notamment Ursula von der Leyen, c'est que c'était une présidence plutôt réussie pour Emmanuel Macron, avec énormément de dossiers qui ont été conclus pendant, encore une fois, ces 6 mois de présidence tournante.
Et quels dossiers, justement, ont été délivrés ?
Pour d'abord commencer par cette question de l'Ukraine, d'abord, il faut le dire, hein, c'est pendant la présidence française qu'on a eu 6 trains de sanctions. C'est vraiment la France qui s'est mobilisée pour faire émerger ces trains de sanctions à l'encontre de Moscou. Et puis, dans plein de domaines, Marianne, d'abord dans la question du soutien humanitaire, dans la question des sanctions financières, mais aussi dans la question de la livraison d'armes à un pays tiers en guerre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important de souligner parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des trains de sanctions et de ce qui s'est passé sur le dossier ukrainien, ça, c'est vraiment la proactivité de la France qui a permis. Alors, faut aussi le préciser, hein, Marianne, malgré des positions qui ont été un peu divergentes au début, où la France voulait elle-même un petit peu ménager Moscou, mais in fine, c'est quand même la France qui a fait avancer ces différents trains de sanctions. Ensuite, sur la question de la transition climatique, on a eu aussi de nombreuses avancées. On a eu la question de la neutralité carbone d'ici à 2050, malgré encore une fois des freins, enfin certains freins à cause de cette guerre en Ukraine. Mais en tout cas, voilà, on a eu de nombreuses avancées sur cette question de la neutralité carbone. Et puis après, on a eu peut-être de manière un peu plus, j'allais dire concrète pour le citoyen lambda, on a eu plein de dossiers que la France a permis de débloquer. La question on a beaucoup parlé dans les articles, c'était assez rigolo, mais la question du chargeur universel, par exemple, c'est quelque chose que la France a fait avancer. Mais après, des questions aussi beaucoup plus importantes, structurelles, comme la question du salaire minimum européen, la question de la place et du pourcentage des femmes dans les conseils d'administration. Ça, encore une fois, c'est sous la présidence française qu'on a eu ces avancées. Et puis après, dans la question du numérique, Encore une fois, là, je suis en train de dresser un petit peu les grandes réalisations, mais sur la question du numérique, on a eu quand même deux actes majeurs qui vont permettre de mieux encadrer le secteur. C'est la conclusion de deux actes, c'est le Digital Services Act, DSA, et le Digital Market Act, qui encore une fois sont deux actes qui vont permettre de beaucoup mieux encadrer au niveau européen toutes les questions qui sont liées au numérique, sur la question des données, sur la question de la privacy, sur la question de la propriété des données, à qui appartiennent les données, les data, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment dressé ça de manière assez succincte, rapide, mais sur plein de dossiers, on a véritablement cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par la France qui a permis de faire avancer ces dossiers.
Je reviens sur le dossier ukrainien. Vous parlez de ménager la Russie. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a eu raison de continuer le dialogue avec Vladimir Poutine ?
Alors, sur cette question de ménager la Russie, ça c'est, on va prendre d'ailleurs les mots hein, d'Emmanuel Macron, c'est toujours plus juste pour nos auditeurs. Il avait en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était ne pas humilier, là je le cite, ne pas humilier la Russie avec l'idée de garder une ligne de communication ouverte avec le Kremlin pour in fine affaiblir l'autorité de Moscou sur l'ensemble du continent. Et puis on avait en opposition à cette ligne qui n'est pas que française, hein, qui était une ligne plutôt ouest européenne, hein, l'Allemagne et l'Italie étaient sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, on avait les pays en fait beaucoup plus proches de manière en termes géographiques comme la Pologne ou comme les Pays-Baltes, pardon, qui eux été pour une poursuite de la guerre jusqu'à la défaite russe. Maintenant, ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut dire si Emmanuel Macron avait ou pas raison, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron, c'est plutôt Emmanuel Macron, disons-le comme ça, qui est allé vers cette position des pays baltes et de la Pologne, notamment quand on est passé à la livraison d'armes à l'Ukraine. Donc en fait, on a aussi eu sur cette question-là, sur la question de la guerre en Ukraine qui a forcé l'Union européenne à accélérer sur plein de dossiers, on a aussi eu une adaptation d'Emmanuel Macron qui, encore une fois, était sur une ligne peut-être plus conservatrice au début et qui allait s'aligner sur en fait les velléités des pays concernés géographiquement beaucoup plus directement, comme la Pologne et comme les Pays-Baltes. Mais ça s'est pas fait, Marianne, sans contrepartie. Parce que si on prend encore d'autres grandes réalisations pendant ces 6 mois de présidence tournant du Conseil de l'Union européenne, sur la question, par exemple, du pacte migratoire, alors qu'il y avait une réticence, pour le coup, cette fois, des pays de l'Est européen, notamment la Pologne, la Pologne elle-même a fait un pas, en fait, pour justement accueillir sur son territoire beaucoup plus de réfugiés, notamment des réfugiés ukrainiens, avec ce qu'on a appelé un mécanisme volontaire de solidarité qui a été adopté le 10 juin dernier. Donc, vous voyez, en fait, j'allais dire, est-ce que Emmanuel Macron ou pas a eu raison d'avoir cette position conservatrice? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu un alignement des planètes à la fois sur la question de la position européenne par rapport à Moscou, la position de fermeté, mais aussi sur la gestion commune des flux migratoires par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à plein d'autres dossiers. Et d'une certaine façon, ce que je trouve intéressant, Marianne, parce que moi, en politique, quand on en parle, ce que j'aime bien, c'est analyser non pas forcément la photo à un instant T, mais l'évolution. Et vraiment, sur la guerre en Ukraine, j'ai l'impression qu'on peut dire que l'Union européenne a appris de ses erreurs passées sur la gestion du Covid. On avait beaucoup reproché à l'Union européenne d'avoir mis plusieurs mois avant de pouvoir dessiner une position commune. Et sur cette guerre en Ukraine, alors, tout n'est pas à mettre au bénéfice forcément de la présidence française du Conseil de l'UE, mais voilà, il faut dire que c'était la France qui était à la tête de cette structure à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a eu une Union européenne qui a parlé plutôt d'une seule voix, ou en tout cas qui a su s'aligner beaucoup plus rapidement, par exemple, que par rapport à la crise du Covid.
Comment expliquer que sur la scène internationale, Emmanuel Macron soit encensé, alors que sur la scène domestique, il est plutôt affaibli?
Alors, c'est un point qui est extrêmement intéressant, Marianne. D'abord, la présidence tournante, la dernière que la France avait eue, c'était en 2008, c'était sous Nicolas Sarkozy. Donc, ça veut dire que ça faisait déjà un certain nombre d'années que la France n'avait pas eu à avoir cette responsabilité. Le deuxième élément, c'est que Emmanuel Macron savait qu'au moment de cette présidence tournante, il y aurait ces élections présidentielles et législatives. Donc maintenant, savoir est-ce qu'il voulait l'utiliser comme un tremplin pour ces élections, c'est difficile, mais en tout cas, c'était un pari parce que, encore une fois, personne ne pouvait savoir comment cette présidence se passera à ce moment-là. Donc, c'était aussi un pari d'Emmanuel Macron de hoster, d'avoir cette présidence pendant des élections législatives et présidentielles. Sur votre question, Marianne, mais ça, je crois que c'est une constante, hein, c'est que sur la scène diplomatique internationale, il y a quand même une certaine unanimité pour dire que il y a un vrai travail qui est fait de la part du président français. Et puis là, je crois qu'il faut aussi y ajouter le travail qui avait été fait par Clément Beaune, l'ancien monsieur Europe du gouvernement Philippe, qui maintenant est passé au transport. Mais il y avait véritablement une expertise. Et je veux juste donner un exemple. Hein, je n'ai pas d'autres exemples en tête d'un ministre en charge des dossiers européens qui soit sorti du Collège de Bruges, qui est l'équivalent de l'ENA sur les questions européennes. Et Emmanuel Macron avait intelligemment placé, alors, un fidèle à la fois, mais aussi quelqu'un qui s'y connaissait, qui avait un véritable intérêt pour ces questions européennes. Donc, je crois que sur les questions internationales et européennes, on a cité la présidente de la Commission européenne, mais le président du Conseil européen, Charles Michel, aussi a salué, et là, je le cite, le travail gigantesque qui est réalisé par Emmanuel Macron. Donc, sur ces questions européennes et internationales, je crois que vraiment, il y a une reconnaissance du travail qui est fait et du fait que la France, je sais pas si elle est revenue, mais en tout cas, la France a su imposer ou réimposer sa voix sur la scène internationale. Mais le problème, Marianne, ou la dystopie quand on parle de politique interne, c'est que en fait, c'est des sujets qui paraissent un peu loin du quotidien des Français et que c'est pas ça qui va apporter des réponses sur les questions du pouvoir d'achat, sur les questions de la sécurité et sur un tas d'autres questions qui sont le quotidien des Français. Et donc, je crois, il faudrait regarder les études d'opinion, mais que en fait, les questions européennes et internationales ont eu très peu d'impact sur la perception qu'ont eu des citoyens d'Emmanuel Macron, ou en tout cas du vote en faveur de Renaissance ou de tel et tel candidat. Donc je crois que c'est aussi un enseignement, hein, d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, pour ce second quinquennat, c'est que certainement maintenant il y aura encore beaucoup d'attentes sur ces questions européennes et internationales, parce que il a d'une certaine façon installé un précédent, mais que ce ne sont pas ces questions-là, malgré tout le succès qui peut y être apparenté, bah, qui vont permettre d'avoir une image plus favorable au sein de l'opinion, qui peut-être attendent des réponses, j'allais dire, plus qui les concernent plus directement. Et j'aimerais ajouter que, et c'est là aussi peut-être tout un travail de pédagogie qu'il y a à faire pour l'Europe, sur l'Europe, c'est que 80%, Marianne, des lois qui sont votées en France sont des transcriptions, sont des traductions de lois qui sont votées à Bruxelles. Donc en fait, foncièrement, ce qui se passe à Bruxelles a un impact sur le quotidien des Français. Et peut-être que c'est un élément de réponse que je peux apporter dans cette Europa House pour nos auditeurs. C'est peut-être là où le travail de pédagogie est à faire. C'est que ce qui se passe à Bruxelles, c'est pas simplement de la politique européenne ou internationale. Ça a une traduction très concrète dans le quotidien des Français, parce que, encore une fois, 4/5 des voix qui sont votées au Parlement français sont en fait des traductions, des translations des lois, des adaptations des lois qui sont votées au Parlement européen de Bruxelles.
Dernière question, Nathanaël. C'est fini pour la France, donc. Hein, maintenant, c'est la République tchèque qui prend les rênes de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des enjeux qui leur sont propres ?
En fait, ça fonctionne en trio. Alors, un peu, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est à la fois la Suède qui présidera le prochain conseil après la République tchèque, la France et donc la République tchèque. En fait, ils vont travailler ensemble sous la forme d'un trio. Pourquoi ? Simplement juste pour assurer la continuité, pour pas qu'il y ait simplement 6 mois de présidence et que ça s'arrête. Donc déjà, c'est-à-dire que effectivement, même si la France n'aura plus la présidence tournante de ce conseil de l'Union européenne, on aura encore d'une certaine façon la tête dans ce qui se passe justement pour assurer cette continuité. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur la République tchèque, pardon, de manière plus en détail, ou en tout cas sur le programme de la République tchèque, ce qu'on sait déjà, c'est que il y a beaucoup d'attentes sur une idée que Emmanuel Macron justement avait un petit peu lancée comme ça au mois d'avril, qui est celle de la Communauté politique européenne, la CPE. L'idée de la CPE, en fait, c'est de réunir des partenaires à l'échelle du continent européen qui vont au-delà de l'Union européenne. Alors pourquoi Emmanuel Macron avait lancé cette idée et pourquoi c'est un dossier qui va être scruté de près sous la présidence tchèque ? C'est parce qu'en fait, c'est d'une certaine façon une manière de temporiser avant certains élargissements, puisqu'on sait que c'est un débat là maintenant qui est récurrent au sein de l'Union européenne, et notamment avec l'attribution du statut de candidat à l'Ukraine. C'est en attendant que l'Union européenne s'élargisse, et avec toutes les complications que ça peut apporter et puis toutes les incertitudes. Un des grands enjeux, c'est de savoir comment est-ce que à l'échelle du continent européen, on va pouvoir travailler encore avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est un des grands enjeux pour la République tchèque. C'est cette question d'abord de la communauté politique européenne. Et puis après, d'autres enjeux, c'est plutôt la question, alors là, ça concerne plus ce qu'on a appelé le groupe de Visegrad, donc c'est-à-dire les pays plutôt de l'Est européen. Le vrai enjeu pour la République tchèque, c'est de savoir s'ils vont pouvoir s'affirmer comme justement un leader de cette Europe de l'Est plus, et faire face à des velléités plus conservatrices, comme ça peut être le cas en Hongrie avec Viktor Orban. Donc pour l'instant, c'est encore des enjeux, j'allais dire, très très macro, mais ça va être vraiment, voilà, deux choses très importantes. C'est la communauté politique européenne et ces questions d'élargissement, comment ça va être traité dans les 6 prochains mois, indépendamment de ce qui va se passer d'ailleurs, Marianne, pour l'Ukraine. Et puis la deuxième question, eh ben, c'est en fait de savoir comment est-ce que la République tchèque pourra peut-être gérer d'une façon un peu plus réussie les nombreux vétos, notamment, qui sont apportés par la Hongrie, et les positions plus conservatrices qui empêchent des fois l'Union européenne d'avancer quand il y a un vote à l'unanimité qui est requis. Donc comment la République tchèque va pouvoir s'affirmer face à la Hongrie et faire que les dossiers avancent. Voilà, les deux choses qu'on peut dire pour le moment de cette présidence tournante de l'Union européenne assurée par la République tchèque dans les 6 prochains mois.
Réponse dans 6 mois. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci beaucoup, Marianne.
Nous Nous avons le plaisir de recevoir sur Radio SBS la musicienne Eliane Lossad. Si son nom ne vous est pas inconnu, eh bien c'est parce que nous avons déjà reçu Eliane dans le programme en français. C'était en février, souvenez-vous, pour le 10e marathon de musique classique organisé par la radio 3MBS. Aujourd'hui, la pianiste est de retour sur nos ondes pour nous parler d'un nouvel événement. Eliane, bonjour.
Bonjour Marianne.
À l'occasion de la fête nationale française, le 14 juillet donc, vous allez jouer un récital pour piano à Melbourne. Parlez-nous de cet événement.
C'est organisé par Australian Digital Concert Hall qui aura lieu à Athenaeum 2. C'est 188 Collins Street à Melbourne même. Ça sera un concert de la musique française ou musique qui a été inspirée par la France. C'est une rétrospective de la musique française et c'est juste une heure de musique. Alors, je ne peux pas tout jouer, mais j'ai choisi des morceaux qui représentent des compositeurs préférés de mon répertoire.
Les années de musique que vous allez jouer, c'est toute musique située entre 1735 et 1969.
Oui, c'est ça.
Et vous avez choisi d'interpréter Michel Legrand, Édith Piaf, c'est ça?
Oui, je dois dire que avec le Covid qui m'a attaqué la semaine passée, je n'ai pas pu finir ma transcription de Édith Piaf. Alors, je ne sais pas encore si je vais jouer cette transcription, mais je vais jouer quand même un morceau par Francis Poulenc qui est hommage à Édith Piaf. En plus, j'ai écrit une transcription de « Tous les moulins de mon cœur » par Michel Legrand. En effet, on dit en anglais « mash-up », c'est-à-dire que c'est des influences de Chopin et Liszt pour l'accompagnement que j'ai écrit, mais j'utilise la chanson de Michel Legrand. Alors, c'est un peu classique, un peu populaire.
Et pourquoi avoir choisi ces titres?
J'adore cette musique. Je crois que, en tant que pianiste classique, on n'ose pas jouer la musique populaire parce que on est trop snob et on peut pas jouer ces musiques trop populaires, trop folkloriques, etc. Mais moi, je trouve que les mélodies des artistes populaires, ce sont parmi les mélodies les plus jolies dans l'histoire de la musique.
Et expliquez-nous pour qu'on comprenne bien, vous faites vos arrangements, est-ce que vous les faites seul ou est-ce que vous êtes accompagné d'une équipe qui vous aide?
Ah non, pas d'équipe. Non, en anglais on dit « me, myself and I ». C'est seulement moi, j'écoute la chanson chantée par Michel Legrand. Et puis après, j'écris la mélodie et après, je commence à inventer des accompagnements qui n'ont rien à voir avec ce que lui, il a écrit, mais comme si Chopin ou Liszt avaient écrit la mélodie eux-mêmes et que cet accompagnement est dans le style, un ancien style.
Comment on fait pour assister à ce récital techniquement, les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent venir vous voir?
Australian Digital Concert Hall, il y a un site web et vous pouvez rechercher le 14 juillet et il y aura mon nom et un récital à 7h ou 19h et vous achetez, si vous voulez être là en personne, vous pouvez acheter un billet pour $44 et si vous voulez écouter en ligne, c'est $24. Et je préfère que vous veniez, bien sûr, parce que pour jouer pour les caméras, c'est pas marrant, ça. Mais pour jouer pour les vraies personnes, ça me manque tellement depuis le Covid. Et ça fait une grande, grande différence d'avoir l'énergie des gens qui écoutent.
Oui, parce que justement, c'est peut-être avec le Covid qu'on a changé nos habitudes. Mais désormais, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible d'assister à votre récital pendant 3 jours, je crois.
Oui. Vous avez 72 heures à écouter après le début de ce concert si vous avez acheté le billet avant le commencement du concert.
D'accord, il faut acheter le billet avant le 14 juillet à 19h.
Exactement. Vous pouvez l'acheter à 18h30 si vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas le temps d'écouter, vous pouvez attendre jusqu'à dimanche soir, par exemple. À mon avis, c'est une bonne chose, mais je dois dire que si j'avais le choix, je préférais jouer pour les gens en vrai, en personne, parce que il y a une énergie vraiment spéciale quand on joue pour le public. Et on ne peut pas remplacer avec les caméras. On ne peut pas. C'est pas la même chose. Mais en disant ça, je dois dire que je suis vraiment redevable. Pour les gens qui ont organisé ça, c'est magnifique, comme vous avez dit, pour les gens qui n'arrivent pas à assister au concert en personne.
Et parlez-nous un petit peu de vous. Est-ce que vous avez d'autres projets, des concerts de prévus après ce 14 juillet?
Oui, je vais jouer un concerto de Beethoven au mois de septembre. Je vais jouer plusieurs concerts au mois d'août avec un chanteur. On va partager le programme, moitié piano sol, moitié chant. Le programme s'appelle Wanderlust. Je vais jouer Wanderer Fantasy de Schubert et lui, il va chanter et je vais l'accompagner Songs of Travel, les chansons de voyage par Ray Vaughan Williams en anglais. Et on va jouer ça dans plusieurs endroits. Après ça, je vais jouer des festivals à Gippsland. Et après, au mois de novembre, je dois aller en Italie pour jouer des concerts à Bologne. Et je retourne au mois de décembre pour jouer un concerto de Mozart avec Zelman Symphony. Alors, c'est très, très occupé en ce moment.
Des beaux projets.
Oui, très.
Eliane Lossade, on le rappelle, vous jouez un récital pour piano le 14 juillet à 19h en centre-ville au 118 Collins Street à Melbourne.
J'espère vous voir là. Merci de m'avoir invitée, Marianne.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Les titres de ce samedi 9 juillet, au lendemain de la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, les hommages se multiplient. L'ex-chef de l'exécutif a su marquer son temps par sa longévité, mais aussi par les réformes économiques controversées. Au Royaume-Uni, les tractations politiques ne se font que commencer après la démission de Boris Johnson et le président américain Joe Biden a signé un décret présidentiel pour tenter de protéger l'accès à l'avortement.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.